Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je pars chaque semaine à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé, et qui ont de jolis messages à nous transmettre, t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Il y a toujours un doute de qu'est-ce que je suis réellement capable. Quand on est arrivé assez loin, on n'a plus peur. Et je pense que j'avais besoin d'aller jusqu'à cet extrême-là pour savoir que je pouvais. Je sais que si j'ai envie, je peux partir à tout moment. Rien ne m'arrête. Plus tard, soit tu fais un truc que tu aimes bien faire, soit bah, il faut que tu gagnes beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce que tu aimes. Mais dans ces cas-là, tu feras ce que tu aimes un peu moins de temps. Et c'est un choix.
On lui dit que c'est dangereux, que ça n'est pas possible, que c'est trop compliqué, farfelu, fou, risqué. On lui dit qu'elle n'ira pas plus loin que le périphérique parisien. Elle répond qu'il ne faut pas avoir peur de réaliser ses rêves, alors elle part, un peu inconsciemment. 4 mois plus tard, elle arrive à Vladivostok, en moto. Cette moto avec laquelle elle sillonne le monde pour questionner la liberté. En presque 11 ans, Mélusine Malander aura finalement exploré 5 continents et traversé plus de 50 pays. Elle est devenue un emblème de l'aventure féminine en France et une des rares femmes dans le monde à briser les préjugés pour réaliser des expéditions solitaires à moto. Mélusine nous parle aujourd'hui de liberté, d'aventure, d'humilité, de l'importance de se confronter à l'inconnu et aux difficultés qui nous déstabilisent parfois. Cet épisode est une incitation au voyage, à la prise de risque, à bousculer les barrières et surtout à croire en ses rêves plus fort encore.
Chouette, on y va ?
Parfait, on y va.
Salut Mélusine.
Bonjour.
Je suis enchantée de pouvoir te rencontrer aujourd'hui à Paris.
Bah, merci.
Pour qu'on parle d'aventure. Mélusine, tu es une exploratrice, aventurière, motarde, humaniste, féministe, rêveuse, curieuse. Tu parcours le monde majoritairement à moto depuis 11 ans. Et tu es une des rares femmes à intégrer la Société des explorateurs français en 2015. Ce goût du voyage, il te vient de très jeune, parce que depuis toute petite déjà, tu voulais être hôtesse de l'air, je crois.
Tout à fait.
Quelle petite fille tu étais quand tu avais 7 ans?
7 ans? Ah, je crois que quand j'avais 7 ans, j'allais très bien. J'étais une petite fille pleine d'énergie, qui faisait pas mal de vélo. J'habitais une maison dans les Landes qui avait pas de barrière, on avait un cheval. On vivait pas très loin de la mer, donc on allait souvent à la mer. Ma mère nous emmenait souvent là-bas. Je pense que j'étais une petite fille pleine de vie.
Tu touchais déjà à cette fameuse liberté.
Oui, sans trop m'en rendre compte. Mais j'ai vraiment eu de la chance d'avoir des parents qui nous laissaient très très libres. Et je pense que j'ai eu une enfance très heureuse.
Génial. Quels étaient tes rêves quand tu avais autour de 15 ans, que tu étais adolescente et que tu pensais à ton avenir? Comment tu imaginais la vie des grands? Est-ce que ça te faisait peur? Est-ce que tu avais plein de projets en tête?
Quand j'avais 15 ans, j'avais envie d'être hôtesse de l'air.
Ouais,
c'était
toujours.
Ça,
ouais.
C'était toujours ça. Après, je venais de faire un stage chez Air France, donc j'étais plutôt en train de me dire est-ce que vraiment j'ai envie d'être serveuse dans un avion? Mais j'ai quand même envie de voyager. J'avais ce rêve d'aller en Inde. C'était quelque chose qui me...
Pourquoi l'Inde?
Je sais pas, parce que j'ai une tante qui avait été très jeune, à 18 ans, avec sa meilleure copine, faire le tour de l'Inde. Et moi, ça me fascinait. J'avais vraiment envie de découvrir cette culture. Donc je me disais, il faut vraiment un jour que j'aille en Inde. Et j'étais en train de me dire, peut-être aller vers être psy. Voilà, c'était à 15 ans, j'étais là-dedans.
Ok.
Ah oui, il y a quand même une sacrée différence entre hôtesse de l'air et psy.
Oui. Mais c'est, ouais, c'est deux choses différentes, mais qui sont complémentaires dans ce que je suis. C'est-à-dire que j'adore voyager, et donc c'était ce que m'apportait être hôtesse de l'air. Prendre soin des gens aussi, s'en occuper. Et psy, c'est aussi s'occuper des gens, et les écouter, et comprendre l'humain. C'est ce qui me fascinait assez. Pourquoi ces gens font ces choses-là de cette manière-là? Enfin, on ne fait pas les choses de manière anodine. Et ça me posait déjà question à cet âge-là.
Et donc, pour concilier toutes ces passions, quelles études tu as choisi de faire?
Eh bien, carrément autre chose. J'ai fait des études de stylisme. Je suis arrivée en stylisme, mais je me suis assez vite spécialisée en costume de scène. Et bien, là aussi, c'est aussi des histoires c'est des histoires dans des histoires, parce qu'on crée des vêtements pour des comédiens, des vraies personnes, dans un contexte historique, et on réfléchit au personnage, quelle histoire il veut montrer de lui, qu'est-ce qu'il veut cacher, les tabous, c'est des histoires dans des histoires, et après, bah, je fais de l'habillage, et c'est pareil.
Donc toujours cet attrait pour l'humain, finalement.
Ouais, je crois, ouais.
Et dès tes 18 ans, tu t'es engagée dans des missions humanitaires à l'étranger. Qu'est-ce qui te plaisait dans cette idée d'aller faire de l'humanitaire ?
Je pense que c'était le fait de mélanger à la fois le voyage lointain et puis le côté utile. J'avais envie de me sentir utile. Probablement, je pense que j'étais pas si utile que ça, mais en tout cas, ça m'a fait grandir.
Ça a été quoi ta première mission et où ?
C'était au Togo, j'avais 18 ans et c'était donner des cours d'anglais et faire un verger. Autant dire qu'ils pouvaient le faire eux-mêmes, mais bon voilà, ça fait partie de l'échange.
Qu'est-ce que la liberté ? C'est ton fil d'Ariane dans toutes tes expéditions à travers le monde et on va en reparler. Mais à 20 ans, c'était quoi pour toi la liberté ?
Je crois qu'à 20 ans, la liberté pour moi c'était de pouvoir voyager. C'était de pouvoir peut-être avoir assez de sous pour prendre un ticket d'avion et voyager. Je crois que j'avais envie que de ça. Et d'être autonome. En fait, je rêvais vraiment. C'est pour ça que j'ai fait des études assez courtes. Je fais 3 ans d'études. J'avais pas du tout envie de me lancer dans une longue série d'années d'études. Je voulais très vite pouvoir être gérer ma vie toute seule. Non pas que mes parents aient été difficiles, hein, mais j'avais très envie de choisir, faire mes propres choix.
Et donc à 20 ans, à quoi ressemble ta vie finalement ?
À 20 ans, je fais mes études de stylisme. Je suis en costume de scène, donc c'est, je crois que je suis en ma dernière année de costume de scène. Ça se passe plutôt bien. Je fais vraiment des études qui me plaisent. Je me dis que je vais bientôt travailler. Je crois que je suis plutôt contente.
Et tu trouves un premier travail dans ce milieu-là ?
Oui, je vais aller. je vais travailler, je vais faire tous les boulots que je peux faire à ce moment-là. Donc, je vais faire Disney, je vais faire Astérix, je vais faire tout ce que je peux, Crazy Horse, sans dire non à rien. Je fais des courts-métrages sur courts-métrages, mais c'est passionnant.
Et donc, après, tu vas croiser la route de Christian qui va te permettre de matérialiser et de vivre toutes ces aventures, du moins de te mettre un premier pied dans cet univers. Et ta première aventure avec lui, ça va être La Trace des Hommes en Patagonie en 2009, où vous partez 2 mois à pied et 3 mois en kayak. Tu dis que tu as appris là-bas qu'il ne servait à rien de lutter contre la nature. Elle l'est, tout simplement. Ça veut dire quoi, lutter contre la nature ?
Ça veut dire... Lutter contre la nature, c'est oublier qu'on fait partie de la nature et vouloir tout contrôler. C'est croire qu'on peut contrôler tout. Et c'est ce qu'on oublie, je crois, que, quand on vit en ville, on a l'impression qu'on peut tout faire. On se fixe des objectifs, on dit on va ira d'un point A à un point B. Et puis quand on est dans la nature, ça se passe différemment. Mais il faut l'accepter. Et donc, on accepte aussi sa condition d'humain, de notre faiblesse. Mais c'est pas grave.
Est-ce que avant le voyage, tu étais aussi dans ce mécanisme de contrôle, de vouloir planifier un petit peu ta vie et d'aller d'un point A à un point B, justement ?
Peut-être, oui, parce que c'est rassurant. Mmh. C'est rassurant. Ça voulait pas dire que je savais pas ce qu'était la nature. Mais je pense que, oui, c'est rassurant. Puis on l'oublie, en fait, très facilement. Ben, on est très protégé. Quand il fait froid, on met une veste, on met le radiateur. Quand il pleut, on va se couvrir. On maîtrise tout. Mais ça fait du bien d'aller en Patagonie pour ça. De se rappeler que justement, on n'est pas grand-chose.
Après cette première aventure avec Christian, tu décides de parcourir le monde, mais seul cette fois, et avec une moto, en quête de liberté, cette fameuse liberté. Pourquoi la moto comme moyen de déplacement ?
Je suis partie en moto parce que c'était ce que j'avais sous la main.
Ouais.
À ce moment-là, c'est une double histoire. Je pars avec Christian qui m'apprend vraiment tout et ça va être une ouverture. Mais j'ai envie de faire mon propre chemin, de pas le suivre. La Patagonie, c'était vraiment son terrain de prédilection. Et j'ai eu cette immense chance qui m'emmène. Mais à ce moment-là, j'ai envie de dire, j'ai envie de faire mon propre voyage. Au même moment, je suis motarde et ma moto commence légèrement à flancher. Et le garagiste me dit, ta poubelle, faut la mettre à la casse. Et je me dis, non, c'est pas possible. Donc, je veux voyager. Qu'est-ce que j'ai? J'ai cette moto. Si on allait le plus loin possible avec elle. Puis ça s'est fait comme ça.
Waouh! Incroyable! Et tu es allée jusqu'au Japon pour cette première expédition?
Jusqu'à Vladivostok.
Ouais. Et elle t'a lâchée à ce moment-là.
Voilà, là, Vladivostok, elle a dit laisse-moi tranquille, ça suffit.
Mais c'était ton objectif d'aller au moins jusque-là.
Ouais, c'était le rêve ultime, mais en sachant que ça pouvait s'arrêter à tout moment. Et...
Quand la moto rend l'âme et que tu rentres chez toi, comment tu te sens? Est-ce que tu as des plans sur ce qui va se passer par la suite? Est-ce que déjà tu prévois de repartir? Comment tu dessines ton avenir en fait?
Ah, quand la moto rend l'âme, déjà je suis en dépression. Je suis complètement, complètement déprimée. Je suis à la fois hyper heureuse parce que je suis arrivée quand même au bout de ce que j'avais dit. Donc on est fiers. Enfin, j'étais fière. Mais en même temps, je quittais ma meilleure copine.
Ouais.
Donc c'est très mélangé en fait le sentiment. Et quand je rentre, heureusement, j'ai du travail. Je rentre d'ailleurs parce que j'ai du boulot dans un théâtre. Mais je ne pense pas du tout à repartir à ce moment-là. Je suis très, très fatiguée. Je suis vraiment crevée. Et j'ai vu énormément de choses. Je suis très contente, mais je suis très crevée.
Est-ce que cette fatigue, tu l'as ressentée pendant le voyage? Est-ce que justement l'enthousiasme des rencontres, de tout ce que tu découvrais, cachait cette fatigue? Ou est-ce que au fil des jours, quand même, tu sentais que ça tirait un petit peu?
Je sens que ça tire. Oui, c'est fatigant en fait. Je sens que ça tire, mais je suis poussée par mon objectif. Mais c'est vrai que la dernière ligne droite, en fait, quand je vais arriver à Ulaanbaatar, je vais être très très fatiguée. Je vais rester presque 15 jours à Ulaanbaatar à réparer la moto en Mongolie. Et j'ai 10 jours ensuite pour faire la dernière partie. Et ça va énormément me fatiguer. Et je le sais que ça va me fatiguer au moment où je pars. Ça me fatigue quand je le fais et j'arrive exténuée au Japon. Mais de tout le voyage. Mais bon, allez, à ce moment-là, je suis là, il faut que j'y arrive.
Est-ce que parce que tu as eu d'autres expéditions après, on va en reparler, mais est-ce que tu as changé ton rythme de voyage pour les prochaines expéditions? Peut-être plus dans la lenteur?
J'allais pas très vite, mais j'avais cette deadline de travail, qui faisait quand même que j'avais pas non plus un temps extensible. Et puis, j'avais vraiment une sorte de... cette mission que je m'étais donnée, de dire, mais quand même, il faut qu'on y arrive. Et puis, je passais mon temps à la réparer. C'était assez fatigant. Donc, c'était génial parce que tu rencontres toujours quelqu'un. Et puis, je ne me suis pas exactement rendu compte de cette fatigue. À Ulaanbaatar, j'étais très, très fatiguée. Mais il m'a fallu vachement de temps pour me rendre compte que voyager, c'est pas tes vacances.
Oui. C'est vrai que souvent, on allie voyage et vacances, alors que le voyage, le vrai voyage, quand on n'est pas dans un hôtel, c'est hyper fatigant.
Voilà, et ça, je ne l'avais pas forcément pensé sur... bien sûr qu'on était partis en Patagonie, et ça avait été fatigant aussi, mais on l'oublie quand même. Et donc, après ça, c'est vrai que je vais m'octroyer des week-ends de vacances. Mais il me faudra encore d'autres expés pour vraiment apprendre à dire « Oh là là là, il faut t'arrêter avant que tu fasses, que tu craques. » Parce que, surtout que là encore, tu rencontres des gens, puis en fait, c'est extrêmement... c'est exténuant parce que je change de pays tout le temps. Je change de manière de faire, de culture, de langue, d'argent. Faut à nouveau tout réapprendre tout le temps. Et au fur et à mesure des voyages, j'ai commencé à poser la question de la liberté. Et là, j'ai commencé à poser des questions qui étaient compliquées, donc avoir des réponses qui étaient plus difficiles. Et là, il fallait l'absorber en plus de tout le reste. Donc là, il fallait du temps.
En septembre dernier, tu as publié ton premier livre, Les Voies de la Liberté, justement, qui raconte trois de tes expéditions. Donc la première, Back to Japan, où tu as fait 22 500 km de Paris à Vladivostok. Vladivostok. les routes persanes de Paris à Paris en passant par l'Iran jusqu'au Kyrgyzstan. Et les grands lacs d'Afrique, 15 000 km d'Addis Abeba, je vais y arriver, jusqu'à Dar el Salaam. Et dans ce livre, tu dis de ta première expédition seule que cette aventure est bien celle dont j'avais besoin, celle que je recherchais. Qu'est-ce que tu recherchais dans une telle aventure ?
Moi-même. Je crois que je cherchais moi-même, je crois que je cherchais à aller au bout de mes limites et de vraiment savoir de quoi j'étais faite. Il y a toujours un doute de qu'est-ce que je suis réellement capable. Et quand on est arrivé assez loin, on n'a plus peur. Et je pense que j'avais besoin d'aller jusqu'à cet extrême-là pour savoir que je pouvais. Et c'est vrai que maintenant, je sais que si j'ai envie, je peux partir à tout moment. Rien ne m'arrête. Et rien que le fait de le savoir, c'est extrêmement apaisant.
Donc tu n'as peur de rien aujourd'hui ?
Je dirais pas ça. J'ai toujours des peurs et heureusement, parce que c'est ce qui fait aussi la vigilance. Mais j'ai plus les mêmes peurs qu'avant, qui étaient des peurs pas raisonnables en fait, enfin, fondées sur rien. Je suis capable d'analyser mes peurs et de faire la distinction et d'essayer de réfléchir à déjà de les organiser par importance et puis d'essayer d'y répondre de manière mais m'accapare moi mon énergie.
Ça te propulse plus que ça ne te limite.
C'est ça, ça me limite pas.
Ok. De cette expédition, tu dis aussi que c'est une aventure dont le sel est inconnu, le risque, la souffrance, le bonheur et la liberté. Est-ce que inconnu, risque et souffrance sont intrinsèquement liés au bonheur et à la liberté? C'est très philosophique, hein. Mais ça m'a fait réfléchir quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais... Est-ce qu'on a besoin de se confronter à l'inconnu ? Est-ce qu'on a besoin d'être dans le risque et dans la souffrance pour toucher à une certaine facette du bonheur et de la liberté ? Est-ce qu'on est obligé de passer par ça ou pas, quoi ?
Dans liberté, il y a le fait de connaître ses limites. Et si on ne va pas toucher ces limites-là, donc forcément, à un moment donné, être dans une forme de souffrance ou de se mettre dans du dur, ça peut être compliqué, en fait. Pour moi, c'est l'ultime choix, en fait. C'est le choix où tu fais tes choix pour toi et tu sais pourquoi tu les fais. Et ça a été dur. Et du coup, quand on fait ses choix, on le fait avec vraiment une grande conscience de pourquoi on va dans cette direction-là plutôt qu'une autre. Parce qu'on sait ce que ça coûte. Parce que c'est ça. Aussi, la vie, il y a des coûts à tout, qui sont positifs ou négatifs, mais il n'y a que quand on les fait soi-même que vraiment on touche cette liberté-là. C'est pas quelqu'un qui nous l'a imposé. Je dis ça maintenant, peut-être ça changera plus tard. Oui. Mais... Et donc forcément, ça va avec peut-être un renoncement ou une souffrance ou un dépassement de peur ou un dépassement de soi. Parce que la liberté, c'est ça. C'est faire des choix responsables. Et donc du coup, il passe forcément par quelque chose qui peut être un peu douloureux. Et aussi... Il y a une forme d'inconnu, sinon on fait toujours ce qu'on connaît. Enfin, pour moi, cette idée aussi de liberté ou de bonheur, c'est en tout cas dans mon cas, parce que le bonheur peut être différent pour quelqu'un d'autre.
Bien sûr.
Mais dans mon cas, il passe aussi par une forme d'enrichissement et de découverte, et donc forcément à un moment donné d'inconnu, où on ne sait pas où on va.
Donc cet inconnu, finalement, tu nous inviterais plus à y aller, à foncer dedans plutôt qu'à le réfuter ? Souvent, quand on connaît pas, on a peur, on se met une barrière, on se dit « Ok, je reste dans ma zone de confort, je vais pas aller voir ce qui se passe là-bas. » Et toi, tu nous inviterais justement à aller creuser cet inconnu ?
Oui, parce que c'est comme ça qu'on apprend.
Oui.
Parce que sinon, on n'apprend jamais rien et on reste sur une zone de confort et on n'apprend pas sur soi non plus. Mais c'est un risque. Aller vers l'inconnu, c'est se heurter à quelque chose qu'on connaît pas, qui peut être difficile aussi. Mais je pense que ça fait davantage grandir et je crois même que c'est quelque chose dont on a besoin.
Oui.
L'humain, il est fait pour explorer. Il est fait pour découvrir, il est fait pour se nourrir de choses différentes. Sinon, il végète. On a besoin, comme on a besoin de rencontrer des gens, et c'est pas sauter dans le vide, l'inconnu. Oui. L'inconnu, c'est parler à quelqu'un qu'on connaît pas. C'est goûter un plat qu'on connaît pas. C'est ouvrir un livre qu'on ne connaît pas. C'est ça, l'inconnu. Mm-hmm. Pas des trucs de malade, hein. Donc oui, j'invite les gens à aller vers l'inconnu.
Quand on arrive sur ton site, on tombe sur une phrase, on ne naît pas libre, on le devient. Comment on devient libre?
Justement, en allant vers l'inconnu.
Ah ouais, voilà. La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée.
Tu dis qu'au fur et à mesure de tes expériences et rencontres, tu as réalisé à quel point on pouvait être proche, malgré nos différences culturelles. Qu'est-ce qui nous rapproche au final?
Ce qui nous rapproche, c'est que on aime rire, on a peur, on a des colères, on a des joies, on a des curiosités. Tout ça peut s'adresser, je dirais, presque, à, en tout cas, aux humains. Mm. Je pourrais même presque l'étendre aux mammifères. Ça, ça nous rapproche. Maintenant, oui, culturellement, ben, quand on vit, quand on a été élevé au Japon, ou quand on, ou à Mexico, ou en France, ben, on a eu d'autres apports culturels qui font qu'on peut penser la vie différemment. Mais voilà, quelqu'un qui se vautre devant nous, ça fait rigoler tout le monde. On a tous besoin d'un câlin.
Oui.
On a tous besoin d'interactions sociales. Et on a tous éprouvé, à un moment donné, un manque ou un sentiment de liberté. Donc ça nous unit tous.
Il y a une question que j'aime bien poser souvent, c'est cette question de l'amour. Et toi qui as traversé plein de pays différents, qui a pu être confronté à différentes façons de vivre et de concevoir l'amour, comment tu définirais ce que c'est?
L'amour... L'amour, c'est quand... Enfin, aimer quelqu'un, je dirais plutôt ça, c'est l'aimer pour ce qu'il est et pour ce qu'il peut devenir et pas pour ce qu'on a envie qu'il soit. Et accepter l'autre tel qu'il est, sans que ce soit périlleux pour soi, sans s'oublier soi, parce que c'est pas ça non plus l'amour de dire bah tiens il y a que lui qui compte, enfin que l'autre qui compte, mais c'est vraiment voir l'autre avec ses défauts et ses qualités tel qu'il est et sans s'imaginer autre chose en fait et l'accepter comme tel. Quand on aime son enfant, on peut parler de ça. C'est l'accompagner dans ce qu'il va devenir, mais accepter que c'est pas, il est pas à nous. Et c'est ça, aimer quelqu'un, en fait. Ouais, c'est comme ça que je le vois.
Mmh. Je crois que c'était au cours de ta deuxième expédition, celle des routes persanes. Tu as décidé de prendre avec toi une caméra et d'aller poser une même question à chaque personne que tu croisais sur ta route. Qui est, c'est quoi pour vous, la liberté? En quoi les réponses de ces personnes t'ont touché? Par moment, on voit dans un de tes documentaires que tu te poses et tu te dis « Là, c'est dur. Là, je crois que je peux plus encaisser. » On voit que c'est dur d'écouter la réponse de certaines personnes, d'entendre ce que représente pour elles, eux et elles, la liberté.
Quand on répond à la question de la liberté, on répond à plusieurs questions. En fait, on répond à nos propres limites, qui peuvent être mentales ou physiques. Et dans beaucoup d'endroits... elles sont grandes. Elles répondent aussi à qui on est et qu'est-ce qu'on voudrait. Et donc, justement, quelles sont les limites qu'on aimerait peut-être dépasser ou pas, ou qu'on peut pas dépasser, qu'on aimerait dépasser. Et forcément, ça touche à des choses d'impossibilité pour certaines personnes. Et moi, j'ai pas forcément des clés pour aider ces personnes-là. Donc ça crée une sorte d'impuissance et c'est des fois difficile. Et de se retrouver face à des situations qui sont injustes et qui n'ont pas de solution directe. C'est se retrouver face à des gens, à des femmes qui vont faire des mariages arrangés au Bangladesh, qui se font attaquer à l'acide parce que juste elles ont dit non parce qu'elles voulaient pas se marier. Ça veut dire des gens qui pourront jamais faire d'études parce qu'ils sont pas nés, parce qu'ils ont pas d'argent, ils sont pas nés au bon endroit, pas parce qu'ils sont pas intelligents. Mais parce que le système est fait comme ça au Chili. L'université publique, c'est presque 10 000 balles par an. C'est injuste. Voilà. Donc c'est ça aussi, qu'à certains moments, c'est à la fois voir des gens qui vont trouver des solutions et qui vont construire et qui vont taper dans des portes et réussir à créer leur espace de liberté. mais c'est aussi rencontrer des gens qui vont, même s'ils ont réussi à les dépasser, te parlent d'un contexte de vie qui est compliqué, qui est difficile. Et ça, à certains moments, ça pèse.
Sans ouvrir le débat est-ce qu'on est libre ou pas en France, c'est vrai qu'on entend quand même beaucoup de personnes françaises qui disent qu'on n'est pas libre, qu'on manque de liberté en tant que Français. Comment tu réagis à ça, toi ?
Ces personnes qui disent qu'elles n'ont pas de liberté, c'est sincère. Et c'est ça qui est triste, en fait. Quand elles disent qu'elles n'ont pas de liberté, c'est vraiment ce que ces personnes pensent. Et c'est recevable, c'est leur avis. Mais ça pose question, justement, sur qu'est-ce qui fait que ces personnes se sentent justement oppressées. Compte tenu du fait que, oui, comparé à d'autres pays, la situation est pire. Après, il faut pas toujours dire, ça pourrait être toujours pire.
C'est sûr.
Mais ces personnes sont souvent convaincues. Et c'est vrai que c'est compliqué.
Ouais.
Donc, il y a des moments où ça dépend des cas, hein. Il y a des moments où ça peut me mettre un peu en colère. Parce que c'est pareil, enfin, je trouve que c'est pas à propos. Mais ça dépend qui. En fait, pour certaines personnes, c'est réel et c'est vrai. Leur vie n'est pas facile et le spectre de possibilités est compliqué. C'est difficile quand on gagne le SMIC, parce que même en France, on a des gens qui sont pauvres, ou qu'on est battu par son mari, ou qu'on a 3 gamins qu'on veut se séparer et puis qu'on trouve pas un logement. Oui, il y a des difficultés de liberté. Et elles sont réelles. Même en France, oui, on peut avoir des problèmes de liberté. Et puis après, on a énormément de pression sociétale chez nous. sur ce que quelqu'un doit faire, une femme doit faire, ou un homme doit faire. Même si on a beaucoup de liberté, elles existent.
Bien sûr.
Et si t'as pas fait telles études, si t'as pas fait ton bac, en fait, il y a plein de barrières mentales qu'on nous met depuis qu'on est petit, et elles existent. Donc paradoxalement, effectivement, il y a des moments, il peut manquer de la liberté.
Oui, tout à fait. En quoi l'aventure, l'exploration, nous permet de devenir plus humbles?
L'aventure nous oblige à nous confronter à des difficultés et du coup à sortir de cette zone de confort. Et quand on voyage, on se rend aussi compte qu'on n'est pas invincible, hein, et que tout ne tourne pas autour de notre nombril. Ça nous pousse et à rencontrer d'autres gens qui vivent pas forcément dans des situations de notre entourage. Donc justement, sortir de ce cadre peut-être de tous les gens qu'on a l'habitude de voir, qui vivent peut-être bien. Donc de se retrouver avec d'autres gens et de relativiser par rapport à notre situation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin d'aller faire les soldes dans des magasins? Voilà, ce genre de choses.
Par exemple.
Ce
podcast, il s'adresse principalement aux jeunes d'aujourd'hui. Quel conseil tu voudrais leur donner à ces jeunes?
Essayer. Je crois qu'il faut essayer de faire les choses qu'on a envie de faire. Pas forcément écouter les conseils négatifs. Je pense que si on a une idée, quelque chose dans la tête, il faut l'essayer. Il faut essayer partir. Il n'y a pas de... Surtout à notre époque, où rien n'est tracé. Essayer d'être positif dans ses rêves, en fait. Il y a des rêves plus compliqués que d'autres. C'est sûr que là, j'ai 40 ans, je voudrais être astronaute, ce serait plus compliqué. Mais je pense que souvent, notre propre barrière, c'est soi-même. La chance de justement être dans un pays, en ce moment, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais quand même, non, faut y aller, pas à pas. On n'est pas obligé de tout de suite aller à Vladivostok. Hein.
Bah oui.
Mais non, voilà, partir. C'est bien.
C'est bien, ouais.
C'est bien, ouais. Ça permet de voir autre chose. Je vais m'en sortir de son contexte pour revenir. En fait, c'est ça qui fait du bien. C'est que c'est pas forcément fuir chez soi, mais ça permet de revenir chez soi et de vraiment se poser des questions. Et en fait, c'est pas grave si on va dans un chemin et puis on change après. Voilà, c'est tout. Mes parents disaient un truc très bien. Quand tu disais qu'est-ce que tu veux faire plus tard, soit tu fais un truc que t'aimes bien faire, parce que de toute façon, tu seras amené à le faire... quand même 35 heures par semaine, on va dire ça comme ça chez nous en France. Soit il faut que tu gagnes beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce que tu aimes. Mais dans ces cas-là, tu feras ce que t'aimes un peu moins de temps. Et c'est un choix, voilà, tu fais soit l'un, soit l'autre. Et ils n'avaient pas si tort que ça. C'est bien d'essayer de faire des choses qui nous plaisent et qui nous font vibrer. Et puis après, on peut changer.
Très chouette. Bah écoute, merci Mélusine. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager ou est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais nous dire ?
Je crois que c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, ouais. Merci beaucoup pour tous ces partages.
Merci. Merci beaucoup.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Œil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.